Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, et un, et deux, et trois départs. Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi quittent le gouvernement, mais pas tous dans les mêmes conditions. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Le sacrifice de Theresa May pour faire voter l'accord sur le Brexit. Quel métier on la cote aujourd'hui? Sur quels critères choisit-on son secteur d'activité? France Inter vous dévoile une étude ce matin. Quand Dieudonné se tait, c'est au tribunal. Et puis une aile d'avion en guise de table ou un hublot pour coiffeuse, Airbus se lance dans l'ameublement.
Les invités de France Inter ce matin, Alexandra Ben Saïd, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
Leïla Bekhti et Édouard Baird sont deux acteurs formidables à l'affiche du film La lutte des classes. Ça nous parle de mixité sociale, économique, religieuse, culturelle, tout ça autour de l'école publique. Tiens, ça va intéresser votre invité de 8h20,
Nicolas.
Ben
oui, parce qu'à 8h20, l'orientation des élèves de seconde, le futur baccalauréat, la loi sur l'école de la confiance, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui est l'invité aujourd'hui du Grand Entretien. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. La liste des sortants s'allonge au fil des mois. Ce ne sont plus 7, mais 10 ministres qui auront quitté le gouvernement en début de quinquennat, du jamais vu. Le communiqué de l'Élysée est tombé un peu avant 20h hier soir. Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, et Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, quittent donc leurs fonctions. Mais Yael Gauz, les trois partants ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il faut plutôt parler de 2 plus 1.
3 bons de sortie, mais seulement 2 remerciements pour bons et loyaux services. Le chef de l'État libère donc Nathalie Loiseau et Benjamin Griveaux à leur demande parce qu'ils ont des impératifs électoraux, les européennes pour l'une, les municipales pour l'autre dans un an. Et dans la compétition interne pour Paris, tout le monde sait, explique un intime d'Emmanuel Macron, que c'est lui qui a les faveurs du président. Un vrai soulagement pour Benjamin Griveaux, qui dînait en famille hier soir, impatient de faire ses cartons pour annoncer qu'il est candidat, car il y a urgence, En Marche décroche dans les sondages. Pour Mounir Majoubi, en revanche, et lui vise aussi la mairie de Paris, le bon de sortie ne s'accompagne d'aucun remerciement. Au contraire, confiance rompue avec le Premier ministre, pas suffisamment à sa tâche, disent les uns, indiscipliné, critiquent les autres, quand il tend la main aux gilets jaunes en janvier ou qu'il critique la taxation des GAFA la semaine dernière. Il voulait partir plus tard, Emmanuel Macron le sanctionne en accélérant sa sortie, mais pas le remaniement qui interviendra demain au plus tôt.
Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, candidats à la candidature La République en marche pour conquérir Paris. Ils ne sont pas les seuls. Cédric Villani aussi est intéressé. Gaspard Ganzer s'est lui aussi lancé dans la bataille pour la mairie de Paris. Sous l'étiquette parisienne-parisien, l'ancien conseiller en communication de François Hollande se réjouit de la clarification des ambitions personnelles, mais souligne aussi l'isolement du chef de l'État.
Moi, ce que je trouve noble, c'est que Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi sortent de l'ambiguïté, parce qu'ils étaient dans une situation un peu bizarre, ils faisaient campagne sans le dire, donc maintenant ils sont dehors, ils sont en campagne, et que le meilleur gagne. En revanche, c'est vrai que moi, j'ai eu l'honneur de travailler pour un président de la République et aussi pour un ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et c'est vrai qu'il ne me serait pas venu à l'idée de quitter mon poste quand ça allait mal. On a vécu les attentats terroristes, François Hollande était très impopulaire, il était attaqué de toutes parts, et on a tenu bon jusqu'au bout. Moi, je suis resté jusqu'au dernier jour, parce que je pense que quand on a l'honneur de servir son pays, on le sert jusqu'au bout. Je sais pas comment ils se débrouillent entre eux, honnêtement. De l'extérieur, c'est assez opaque. J'ai pas suivi le film, et en plus, je veux pas le suivre parce qu'il y a des épisodes tous les jours. Un jour, c'est Griveaux qui parle, le lendemain, c'est Majoubi, puis après, un troisième et un autre. Ce que je retiens, c'est que le président aujourd'hui de la République est très seul. Or, on a besoin de lui pour redresser le pays.
Un propos recueilli par Frédéric Carbone, et mini remaniement donc dans les heures ou les jours à venir.
7h04, l'actualité ce matin, Agnès, c'est aussi et encore le Brexit.
Le Brexit et son incroyable suspense. Nouvel épisode hier soir que l'on pourrait intituler le sacrifice. Theresa May a en effet offert sa démission en échange d'un vote du Parlement en faveur de l'accord négocié avec Bruxelles. Un geste qui n'a pas convaincu les élus nord-irlandais. Des députés qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais toujours incapables de trouver ensemble une porte de sortie. Louise Baudet est à Londres pour France Inter.
On a d'abord dit qu'elle reprenait la main, que sa promesse rebattait les cartes, qu'elle avait peut-être une petite chance d'inverser la tendance. Et puis, patatras, en une déclaration lapidaire, le dit youpi, petit parti nord-irlandais et sa poignée de députés ont tout mis par terre. C'est dire la fragilité de Theresa May, qui certes s'assure de nouveaux soutiens chez les conservateurs, notamment celui des Brexiteurs les plus radicaux, mais sans que cela suffise à réunir les 75 voix supplémentaires à trouver avant un nouveau vote. Retour à la case départ sans que l'horizon du Brexit s'éclaircisse et seule consolation pour Theresa May, le spectacle d'une chambre des communes très éloignée du consensus recherché. Hier soir, les députés votaient les scénarios alternatifs à l'accord de sortie qu'elle a négocié. 8 options, 8 non et des échanges tendus. Consolation aussi de voir dans un récent sondage que moins du tiers des Britanniques la jugent dotée des qualités requises, mais qu'aucun de ses concurrents potentiels ne fait mieux qu'elle. Londres, Louise Baudet, France Inter.
14 contre 1, c'était le rapport de force hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU où les États-Unis ont défendu seuls la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. L'ensemble des autres pays ont dénoncé une violation des résolutions au mépris du droit international. Tous, États-Unis compris, sont cependant mis d'accord pour maintenir la présence sur le Golan des casques bleus des Nations Unies. Retour en France avec l'immense chantier de la dépendance. Plus de 2 millions de personnes devront être prises en charge en 2050. Qui pour les aider? Qui pour payer? Un rapport est remis aujourd'hui à la ministre de la Santé. La France consacre aujourd'hui 1,2% de son PIB à ce secteur, quand la Suède consacre plus du double, 2,7%. Parmi les 5 pistes évoquées dans le rapport, reporter l'âge des départs à la retraite, une seconde journée de solidarité ou encore prolonger la CRDS au-delà de 2024. Rendre plus attractifs les métiers d'aide aux personnes âgées sera aussi l'un des chantiers de la future réforme de la dépendance. Quels sont d'ailleurs les métiers qui attirent aujourd'hui et pourquoi? C'est l'objet de l'étude Randstad que France Inter vous dévoile en avant-première ce matin et qui fait à l'occasion de ses 10 ans un retour sur la décennie écoulée. Et en 10 ans, Claire Chaudière, les mentalités ont évolué.
Alors qu'en 2010, la recherche de la sécurité de l'emploi pesait très lourd dans le choix des candidats, plus ou moins séduits par telle ou telle entreprise, ce critère dégringole en 2019, comme si les Français avaient intégré cette donnée et cherchaient, en contrepartie d'autres avantages, la rémunération d'abord, mais aussi juste après l'ambiance au travail et l'équilibre vie privée-vie professionnelle de plus en plus déterminant.
C'est le télétravail, c'est la capacité à pouvoir organiser mon temps.
François Béharel, président du groupe Randstad.
C'est je ne veux pas forcément me tuer à la tâche. Le travail, oui, c'est important, mais c'est pas le point central non plus de ma vie. C'est un critère qui était autour de la 10e place, qui a remonté dans le top 5 très rapidement.
Parmi les secteurs d'activité plébiscités cette fois, l'aéronautique reste le plus attractif en 2019. Surprise pour les auteurs de l'étude, les médias reprennent du poil de la bête, se hissant à la 4e place, souvent questionnés mais aussi considérés comme primordiaux. Contrairement aux idées reçues, le secteur de l'économie numérique est lui dans les profondeurs du classement, à la 14e place. Les critiques répétées à l'encontre des GAFA expliquent entre autres sa très faible attractivité.
Et cette enquête est à retrouver en détail sur franceinter.fr. Un minimum social garanti, c'est ce qu'ont voté hier soir à l'unanimité les élus de la commune de Grande-Synthe dans le Nord, où 17% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La municipalité va consacrer 1 200 000 euros par an pour permettre à chacun de toucher au moins 855 euros par mois pour pouvoir se loger, se chauffer et se nourrir. Une mesure en partie financée par les économies réalisées sur l'éclairage public. Aussi loquace sur scène que discret au tribunal, Dieudonné est soupçonné d'avoir dissimulé au fisc plus d'1 million d'euros. Il est jugé jusqu'à mercredi prochain à Paris et il a donc invoqué hier soir son droit au silence. Compte rendu d'audience signé Laurélie Carive.
À l'extérieur de la salle d'audience, Dieudonné fait le show. Bermuda, lunettes noires, il se plie au jeu des selfies que lui réclament ses fans. Mais une fois à la barre, le spectacle prend une autre tournure. Sur les conseils de mes avocats, je vais exercer mon droit au silence. Chaque question de la présidente entraîne invariablement la même réponse du comédien. Pareil pour sa compagne Noémie Montagne qui comparaît elle aussi en tant que gérante des productions de La Plume. Cette stratégie surprend à peine Mathieu Ribérol, avocat de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, partie civile dans ce dossier.
Il continue de se moquer du monde. Il considère en réalité que c'est un procès politique. Et comme dans tout procès politique, on adopte une défense de rupture. Eux directement refusent d'adresser ne serait-ce que la parole au magistrat pour dire autre chose que « je conserverai le silence », ce qui est une façon de nier toute légitimité au magistrat.
Pourtant, les questions du tribunal sont nombreuses sur cette billetterie officieuse évoquée par un témoin, sur l'absence de caisse enregistreuse au théâtre de la Main d'Or et l'impossibilité d'y crédit payé par carte bleue. Sans oublier ces liasses de billets, 657 000 euros retrouvés chez Dieudonné dans des coffres-forts ou encore les 560 000 euros transférés vers l'étranger.
Inter, 7h10. Et si vous vous offriez un morceau de ciel ?
A Piece of Sky, c'est le nom de la start-up d'Airbus qui va commercialiser des meubles fabriqués à partir de vieilles carlingues d'avions. C'est tout bénéfice pour l'avionneur qui collabore avec des designers pour créer des meubles recyclés des pièces d'avions. Le catalogue a été présenté hier à Toulouse. Stéphanie Glézis a fait son choix.
Vous pensiez qu'Airbus faisait des avions, c'est vrai, mais désormais l'avionneur européen se lance dans l'ameublement et l'économie circulaire. Il va faire du neuf avec du vieux. Bon, ce ne sera tout de même pas au prix des meubles à monter soi-même. Anaïs Mazalera travaille au secteur transformation digitale d'Airbus et pour Piece of Sky, cette nouvelle filiale ameublement.
Fauteuil, table, table à manger, chaise, étagère, bureau, chaise et aussi beaucoup de luminaires, des coiffeuses et des miroirs. Les pièces d'avion, donc on peut utiliser des bielles comme les luminaires que vous avez vus, des ferrures à l'intérieur des ailes, ce qu'on appelle les ribs qui sont en fait les côtes de l'aile là sur le trône de fer, les structures du fuselage sur le buffet. On utilise beaucoup le hublot, c'est-à-dire en tant que vitre, mais aussi sa structure pour faire des tables et des coiffeuses et des miroirs.
Bertrand Marc a été le premier designer contacté et il a déjà à son actif plusieurs meubles à partir de pièces recyclées.
Bah, des tables, table basse, la table basse avec des ferrures. J'ai aussi une pièce qui n'a pas été montrée là, mais j'ai fait une table dans une tuyère. C'est une partie du réacteur.
Le site internet pour précommander ces meubles est lancé le mois prochain. Les premières livraisons sont prévues en janvier 2020. Prenez le temps d'aller lentement, pourrait être la devise de cette filiale ameublement et recyclage d'Airbus. Toulouse, Stéphanie Glézis, France Inter.
Et on termine, Nicolas, avec cette spectaculaire rose des sables entre mer et désert inaugurée hier à Doha, le nouveau musée national du Qatar, 12 000 mètres carrés d'exposition, un musée imaginé par Jean Nouvel, le pape de l'architecture à la française, qui a séduit Isabelle Pasquier.
Ce musée, c'est une folie architecturale, une rose des sables monumentale qui semble émerger du sable au milieu de la jungle des buildings de Doha. 539 disques, des lames de béton qui s'entrecoupent. On y retrouve Jean Nouvel qui a rêvé ce chaos poétique qu'il a réalisé grâce aux nouvelles technologies.
La rose des sables est souvent considérée par les hommes du désert comme un porte-bonheur et c'est aussi un mystère toujours sur sa fabrication à travers les millénaires. Et je ne sais pas ce qu'est l'intérieur d'une rose des sables. On découvre que finalement ces lames continuent à se croiser à l'intérieur et qu'on va vivre finalement une série de découvertes d'espaces imprévisibles.
À l'intérieur, rien n'est vertical, tout penche. Peu de pièces archéologiques et ethnographiques, mais d'immenses vidéos qui nous mettent en immersion dans une tempête de sable, au milieu des pêcheurs de perles, avec des images réalisées par Jacques Perrin, Abderrahmane Sissoko ou encore Miraner. À l'extérieur, sur un lagon, 114 fontaines de perles noires de l'artiste Jean-Michel Autoniel.
Je voulais que les perles soient noires, qu'elles rappellent la couleur de l'encre que le calligraphe utilise. Je voulais aussi rendre un hommage aux femmes de ce pays, puisque les femmes s'habillent en noir.
Ce musée met en scène le récit national du Qatar. Diplomatie culturelle oblige. Il sera une vitrine séduisante pour cette monarchie du Golfe. Doha, Isabelle Pasquier, France Inter.
Et cette rose des sables est à découvrir en images et en vidéo sur notre site, bien sûr.
Merci Agnès Soubiran.